On en jase, ton show du midi sur Boulevard 102.1 de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV pour nous joindre en studio 418-971-1021. Vous avez été beaucoup à le faire depuis le début de l'émission. Continuez comme ça, ça nous fait un plaisir de vous répondre et de vous lire également notre application Boulevard 102.1 disponible sur Apple Store et Android. La web radio avec Boulevard FM, BLVD FM. Et on est aussi disponible sur les haut-parleurs intelligents. Vous dites BLVD. Écoutez BLVD et ça va vous amener directement à Boulevard 102.1. Pascal, avant de passer à ton excellent dossier sur les restaurateurs qui en arrachent dans le coin de la tête des ponts, quelques manchettes et on commence avec une agression sexuelle quand même assez sordide dans le coin de Lévis, si je ne m'abuse.
Hey, sordide, c'est le mot, Jeff. Je trouve ça toujours difficile, hein, des effets du genre, on voit des dossiers de faits divers dans l'actualité puis les effets, nous, des fois, ils viennent nous chicoter.
Ah, vraiment?
Pas qu'on est immunisé quand on travaille là-dedans, mais des fois, on a un genre de barrière qui se crée pour être capable de vous les livrer, ces nouvelles-là.
Ben, on en a tellement chaque jour, comme maintenant, on fait comme ben, un autre, mais celle-là...
C'est plutôt, en fait, le paravent qu'on se met pour être capable de vous les livrer dans la neutralité et pas l'émotivité, mais il y en a qui nous touchent plus particulièrement. Puis là, il y a celle-ci. Du côté de Lévis, il y a un aîné de 87 ans qui est concerné parce qu'un individu qui se trouvait déjà en prison pour d'autres infractions criminelles qui a été arrêté pour avoir commis des crimes sexuels violents sur cet aîné-là de 87 ans. Directement dans la résidence de l'aîné. Ça s'est fait à Lévis en juin dernier. Donc, selon la police de Lévis, Guillaume Cazot Saint-Hilaire. Je vais répéter trois fois,
oui,
moi, dans
vas-y.
Ces affaires-là. Je fais toujours trois fois, tu me connais.
Oh, let's go.
Il va être réintroduit dans un genre de spectre judiciaire parce que lui, il s'est introduit dans une demeure de Lévis, centre-ville, il y a trois mois, pour s'en prendre à la résidente. Il l'aurait séquestré. Il lui aurait infligé des lésions corporelles en commettant une agression sexuelle complète. Et ça rend encore plus tragique l'attaque, mais il n'y aurait pas de mobile en particulier. C'est ça, on se demandait pas au hasard.
Oh, épouvantable.
Une pure inconnue pour lui, c'est ce que mentionnait le porte-parole du SPVL, Jean-Sébastien Levent. Donc, Guillaume Cazot Saint-Hilaire, 31 ans, originaire du secteur des Jardins à Lévis, qui a été arrêté sous mandat aujourd'hui pour répondre à des actes préminés. Je veux dire hier, là, parce qu'on est mercredi. Oui. Puis, il était déjà incarcéré, comme je vous disais, au centre de détention de Québec depuis le début du mois d'août. Il purgeait une peine de 55 jours en lien avec des menaces, des voies de fait, puis des voies de fait contre agents de la paix également. Cet homme-là, Guillaume Cazot Saint-Hilaire, on va en reparler plus tard, c'est sûr, mais
vraiment
absolument atroce comme dossier.
Clairement.
Pas moins de 90 kg de cristal meth qui ont été dissimulés dans des véhicules neufs. Et on en parlait hier pour les concessionnaires du Québec et du Nouveau-Brunswick. Ça a finalement été saisi par les autorités. Puis on est revenu un peu là-dessus aujourd'hui parce qu'au total, là, c'est cette substance-là qui a été retrouvée, c'est dans une dizaine de véhicules de type Ford Bronco un peu partout dans la province. Et on avait plus d'informations au courant des dernières heures, comme quoi ça s'est fait à Chicoutimi-Jonc, qui est à Rivière-du-Loup, Lange-Gardien ici dans la région, Charny, Beauceville, Thetford-Mines et au Nouveau-Brunswick. Puis on parle de plus de 200 livres de cette substance présumée être de la meth, donc cristal meth, méthamphétamine, qui devrait être envoyée à l'analyse par Santé Canada. On rappelle que c'est dans une opération à grande échelle qui s'est amorcée lundi, dont on a eu des nouvelles hier et qu'on a plus de détails aujourd'hui. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. On est allé directement en attaque dans d'autres garages automobiles qui signalaient une anomalie. Donc, d'après les informations qu'on a recueillies, c'est en provenance du Mexique que ces véhicules-là arrivaient puis auraient transigé par la gare de triage de Charny et ensuite acheminé ailleurs dans la province.
Alors, un réseau très bien établi là, qu'on a réussi à mettre à jour.
Puis je termine la portion de faits divers avec des individus qui s'en sont pris physiquement à deux mineurs à l'aide d'armes pour les forcer à se déshabiller sous la menace. Ils ont été arrêtés le week-end dernier. On vient d'avoir l'information comme quoi ce serait survenu entre le 30 août et le 2 septembre dernier. C'est une période pendant laquelle les suspects attiraient une des victimes de 17 ans dans des endroits spécifiques. Et là, on faisait des menaces verbales, physiques, à même avec des armes contre ou des armes aussi qui s'apparentaient à des armes à feu. Puis on demandait à la victime de retirer tous ses effets personnels. C'est encore une fois les porte-paroles qui sont en train de nous donner ces informations-là, cette fois-ci au niveau du service de police de la Ville de Québec. Puis il y a une autre victime, 17 ans, même âge, qui aurait subi le même sort et s'est interposée pour empêcher les malfaiteurs d'agir. Donc, trois suspects entre 17 et 18 ans qui ont finalement été arrêtés vendredi dernier puis samedi aussi dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Ils font face à des accusations, extorsion, agression armée, voie de fait, menace, puis quelques infractions aussi en lien avec les armes à feu.
C'est une très bonne nouvelle qu'on ait réussi à mettre le grappin sur eux. Pascal, je t'en parlais la semaine dernière, rue Saint-Vallier-Ouest, je te disais, hey, ça n'a pas d'allure, les commerçants là-bas. Il y a des trous partout dans la rue. On peine justement à faire notre chiffre d'affaires, même qu'on avait une commerçante qui nous avait parlé, 60 % de diminution. Mais là, c'est le même principe qui s'applique présentement à la tête des ponts avec cette fameuse phase 1 des travaux.
Ouais, c'est super compliqué, puis moi, j'avais parlé avec quelqu'un qui était chargé des chantiers routiers à Québec, là, oui. De la porte-parole du MTQ, dans leur CV il y a 2-3 semaines. Mm-hmm. Puis j'avais dit, OK, parfait, mais là, on le sait, nous autres, qu'il y a des commerçants qui ça va prendre un détour de 30 à 40 minutes pour aller manger
au
chez
commerce.
Eux. On s'entend que manger, c'est essentiel dans notre vie. Ouais. Par contre, le choix de restaurant, il y en a un, puis il y en a un autre ici à Québec.
Ça se peut que je décide de ne pas faire 30 minutes additionnelles de char pour aller à un restaurant.
Puis même si tu tripes sur le Michelangelo, je comprends que tu vas peut-être choisir un autre restaurant.
Exactement.
Et honnêtement, ça pourrait mener à d'immenses détresse financière en ce moment pour des gens qui sont là depuis des années. Les travaux, là, c'est des travaux de déviation sur le chemin Saint-Louis. C'est complètement fermé à la circulation. Puis c'est entre l'avenue des Hôtels puis l'avenue de la Vigerie. Il y a eu un genre de glissement de terrain, puis là, il y a des travaux sur la route 175 qui affectent la sortie du chemin Saint-Louis. On est là-dedans, puis on est là-dedans pour plusieurs années, jusqu'en 2027. Hier, sur les réseaux sociaux, il y en a un qui s'est dit, ben moi, je vais faire un cri du cœur parce que je vois les choses arriver, puis c'est bien compliqué. C'est Nicolas Cortina. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter cet homme-là?
Pas vraiment.
Homme d'affaires très connu ici du Michelangelo. C'est un restaurant qui a sa réputation et il y en avait long à dire sur la situation.
Vous ne pouvez pas vous rendre sans faire un détour de 30 minutes. OK? C'est qu'ils font des travaux un peu majeurs pour revitaliser la tête des ponts. Je vous attendrai un peu de bruit. Pourquoi je suis dehors dans le restaurant? Il y a 7 pelles mécaniques, de grosses pelles mécaniques. Tout est clôturé. C'est l'enfer. C'est des travaux majeurs qui, si on aurait accepté ces travaux-là avec un peu de temps limité, d'accord, mais ça prend des années. Ils vont avoir des travaux jusqu'en 2027.
Ça n'a pas de sens, Pascal, jusqu'en 2027, des pelles mécaniques. Fait que il n'y a rien d'invitant pour le client.
Ah oh non, puis c'est super dur à supporter, en fait, puis il nous en parlait aussi.
C'est évident qu'un commerce, il ne peut pas supporter ça. OK? La chenouillère, le galopin, moi, les hôtels. Les hôtels, c'est un peu différent, pourquoi? Ils savent pas qu'il y a des problèmes, ils réservent les chambres de longue distance, et puis ça va pas subir. Mais nous, qu'on est restaurateurs, qu'on a besoin de nos clients, on n'a plus. Aujourd'hui, il y avait 2 clients qui avaient réservé, qu'on connaît, puis il dit, oublie ça, Nicolas, je n'étais pas capable de me rendre. Alors, voyez, on vive ça. C'est évident que la situation, comme dit le ministère des Transports, il faut le faire, mais il aurait dû peut-être organiser ça différemment, et puis nous aider un petit peu. Pourquoi nous, on a des frais fixes qui sont attachés à notre commerce, qu'on n'a pas aucune contribution, OK? C'est évident qu'on vit des moments difficiles au bout de 52 ans de restauration. On n'avait pas besoin de vivre ça.
C'est super compliqué, je veux dire, des années à investir tout ce que tu peux dans un domaine qui n'est pas facile non plus.
Exactement.
Avec la pandémie, avec le fait que la nourriture, tous les produits de base augmentent, essaie de te faire ton argent un peu dans l'alcool, mais quand même. Puis il a nommé d'autres restaurateurs qui sont près de lui, puis c'est un genre de consortium en ce moment, ils se parlent comme ils peuvent, mais c'est aussi le cas de Mathieu Guérard, qui est propriétaire du Galopin. Il trouve ça très inquiétant.
Ben c'est sûr qu'il y a une détresse financière, sauf que, tu sais, en même temps, ça fait plus qu'un an. Hein, il y a eu le COVID. Après ça, il y a les travaux comme ça de même qui durent depuis, je dirais, au moins minimum 2 ans et demi. Là. On a fait le plus possible de marcher avec le gouvernement. T'sais, ça a été très, très dur là, dernièrement, mais tu sais, j'espère qu'on va trouver une façon de trouver une entente, parce que, tu sais, le but, c'est pas de fermer. Là. Moi, ça va faire 2-3 ans que j'injecte de l'argent dans le restaurant. J'aimerais ça voir les fins de la construction. Là.
52 ans pour M. Cortina. Du côté de Mathieu Guérard, on investit de l'argent justement pour augmenter la notoriété et la qualité au niveau de son restaurant.
Il y a le pain très connu en passant, c'est juste qu'il vient d'acheter là, à Sylvain Boudreau, Gallo, que tout le monde connaît ici dans la région. Fait que, je veux dire, lui, il achète quelque chose, il veut que ça marche, puis tout arrive en même temps. C'est pas facile. J'ai un moment que j'ai clippé là, avec M. Cortina parce que je me disais, c'est tellement stupide. Il y a des gens qui disaient, ouais, mais c'est normal de faire la construction. Ils sont d'accord. Ils sont vraiment d'accord. Mais ils savaient que ça allait arriver. Ils ont essayé de parler avec la ville. Ils ont essayé de parler avec le MTQ. Puis il y a comme pas de solution. Puis ils disent, hey, nous autres, parce que ça reste des années d'investissement. Écoutez là, ce qu'il faut faire pour essayer d'aller du côté du Michelangelo.
Comme là, il nous a envoyé un plan, c'est très difficile. Si vous venez de Québec, il faut que vous preniez la Vigerie, vous allez prendre le Bois Laurier, vous sortez pour prendre le pont de Québec, vous sortez sur le chemin Saint-Louis. Quand vous arrivez en face de la clinique Saint-Louis, il y a quelqu'un qui vous dit, ben, vous allez où, vous? Si, et puis, vous ne pouvez pas vous rendre. Si vous venez au Michelangelo, il vous laisse passer. Ils ont fait une entrée de côté, OK? Et puis... c'est évident, c'est compliqué. Quand vous sortez d'ici, ben, c'est difficile de retrouver le chemin pour retourner chez vous. Là. Alors, c'est les indications, il faut être un peu... Le GPS, oh, Wise, il vous amène toujours dans de rues fermées. Là. Et c'est compliqué.
Oublie ça. Moi, il m'a invité, M. Cortina, il a dit, viens prendre un café, viens voir. J'ai dit, je me rendrai pas. Sans GPS, mon GPS n'est pas capable de m'amener. Non, oublie ça.
T'en passes dans Bretagne.
Je
pour
reste dans
Gravel.
Venez me chercher avec la grue. Puis, tu sais, je pense pas être toute seule. Là, je vous le dis pour faire rire un peu, mais c'est carrément vrai.
Mais ça n'a aucun sens. Je voyais le chemin dans ma tête, puis je me dis, OK, faut que je tourne sur le Laurier pour prendre la bretelle du pont de Québec, un chemin qui est déjà hyper difficile. Et là, en plus, faut que je dise à un signaleur, laisse-moi passer. Je m'en vais au Michelangelo. Hey, c'est tout pour que j'y aille pas. Là.
C'est des détours de 30 minutes.
Ben oui, Laurier, pont de Québec.
Quelqu'un nous dit, je fais même pas à file au restaurant. Si j'ai pas de réservation, je vais pas imaginer faire un détour de 30 minutes. T'as beau aimer ton resto. Est-ce qu'on a essayé de vous aider? Quand je vous dis qu'ils sont en pourparlers, qu'ils savaient que ça arrivait, ils ont été proactifs, les restaurateurs. Ils ont demandé, est-ce qu'on peut être un peu dédommagé? Y a-t-il une façon de nous aider là-dedans? Parce que c'est sûr qu'on va être impacté. On écoute M. Cortina.
C'est évident que j'ai des avocats qui sont dans le dossier. Ils vont faire le nécessaire. Mais vous savez que le gouvernement, dernièrement, il s'est fait une loi à compter du 31 décembre 2024.
C'est ça.
Que vous ne pouvez pas rien vous opposer à des travaux. OK? Pourquoi nous autres, on avait commencé déjà à discuter en 2023. OK? De ces travaux-là. Puis on avait demandé au ministère des Transports que c'était très grave pour nous. Ils ne nous ont pas répondu. Et puis, à la fin, ils ont sorti la loi et aujourd'hui, on ne peut pas s'opposer à la loi.
Ils ont essayé d'avoir une discussion pour voir ça serait quoi les moyens de moyenner.
Ouais.
Quelles seraient nos solutions? C'est du cas par cas parfait. On est quelques-uns, on n'est pas 150, mais ça reste que ça touche nos entreprises, ça touche l'économie d'ici. Ça...
Oui.
Bon. Comment on peut faire? Et on a passé une loi qui faisait en sorte, après ces débuts de discussion-là, qu'il n'y a personne qui peut s'opposer, il n'y a personne qui peut rien faire et il n'y a pas vraiment matière à discussion pour la suite des choses. Ça vient très, très, très sensible et émotif parce que tu dis, j'ai essayé d'être un bon citoyen, un bon commerçant, d'avoir des discussions, je ne veux pas empêcher les travaux, mais est-ce qu'on peut trouver un moyen de s'entendre? Puis on a juste mis une finalité à tout ça en disant, ben, il n'y a rien à faire.
52 ans. On remercie M. Cortina pour ses 52 ans de loyaux services. Paye des taxes, paye des impôts, contribue à la société, emploie du monde. Puis on le remercie en disant, voici une loi pour te taire.
Puis là, tu dis, ben, OK, ça doit être général. On n'a pas vraiment donné de possibilité à M. Cortina d'aller plus loin parce que ça a été traité comme on est traité des fois comme un pion avec le gouvernement ou y a-t-il un rififi entre eux ou y a-t-il... Bon, je vais poser la question, tiens, à M. Guérard du Galopin. Est-ce qu'on vous a permis d'espérer des solutions, vous, de votre côté?
Absolument pas. C'est pour ça, justement, qu'on est aux nouvelles puis que dans le journal, on essaie de faire des cris du cœur. Tu sais, M. Cortina, hier, c'est une institution. Il faut pas que ça ferme.
Là. Rien pantoute.
Absolument rien. Alors, jusqu'à maintenant, on fait juste se demander on peut tenir combien de temps dans un contexte comme celui-là, là, avant une fermeture, avant une faillite, avant d'être passé à travers toutes nos épargnes, ce qui n'est pas normal d'avoir
pas du
à
tout.
Faire, M. Cortina en avait long à dire.
Disons que là, je me suis donné comme objectif jusqu'au 31 décembre 2025, et puis après ça, je vais mettre en pause, voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat avec qu'est-ce qu'on a gauche à droite. Là. Je ne sais plus. je suis franc avec vous. Je peux pas parler de l'avenir. Quoi. Ils ont les travaux. Ils arrêtent les travaux le mois de décembre et puis ils reparlent le mois d'avril. C'est pas fini. La rue à cause de nous, il sera jamais ouvert avant l'année prochaine.
Puis du côté de M. Guérard au Galopin, ben, je lui ai demandé, vous êtes allé voir la ville, vous êtes allé voir le gouvernement au provincial, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ouvre une porte? Non, on se renvoie à la balle, puis on se dit, ouais, non, ça c'est un MTQ, ah, non, mais ça c'est à la ville, non, mais nous, le municipal, on n'a rien à voir là-dedans.
Bon, ces rues-là vont appartenir à qui? Vont appartenir au municipal une fois que ça va être terminé, c'est eux autres qui vont les entretenir, c'est pas le ministère des Transports qui vont s'en occuper une fois que les travaux vont être terminés. Je comprends, puis tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle, puis on en a parlé aussi dans les nouvelles. C'est comprenable, dans le fond, quand ils font des trucs sur la 20. Mais présentement, quand ils sont là, dans notre cour arrière, c'est sûr et certain que peut-être qu'on serait capable de trouver une entente, là.
Et écoute, Jeff, là-dedans, là, si t'es pas convaincu parce que tu dis effectivement faut faire les travaux, on se comprend, on est tout à la même place.
Ben oui.
Faut trouver un moment de les faire, c'est toujours compliqué. On veut nos réseaux routiers en santé, on trouve ça tannant à quel point qu'on a à les réparer. Maintes fois, en un an, en cinq ans, la chose est. Imagine que c'est ton resto, que c'est ton commerce, et ou n'importe quelle situation dans laquelle t'as besoin d'aller parler à quelqu'un au municipal, au provincial ou au fédéral. Ça fait 2-3 jours qu'on parle de cas qui sont complètement différents, que ce soit les clôtures de piscine, que ce soit des restaurants impactés par tout ça, puis qu'on se rend compte que c'est toujours une question de « ben, t'es un pion pour nous.
Oui.
T'es un pion pour nous. »
T'es un numéro.
À quel moment, au municipal, au minimum, on va être capable de redonner une voix à ces gens-là qui construisent économiquement, puis socialement, puis de toutes les manières possibles, mm-hmm. notre ville de Québec.
Mais tu as tellement raison. Moi, ce qui me rend triste aussi, c'est l'absence de dialogue avec ces gens-là qui comprennent qu'il va y avoir des travaux, qui sont même pour ces travaux-là, parce qu'à terme, ça va améliorer la fluidité à la tête mm-hmm. des ponts, mais qui veulent juste qu'on les entende, qu'on mette en place des solutions qui vont les satisfaire pendant les travaux, puis on ferme le dialogue.
Puis et pas juste... la dernière minute, Jeff, là.
Non.
Ça fait des années.
Ça fait des années.
Je tente d'être proactif.